Bonsoir, Aude Lavigne, on vous retrouve demain pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Ce soir, Corinne Rondeau et Frédéric Bonnet se font face à notre affiche Les premiers albums de Lucien Clergue au Grand Palais à Paris. Jean Dubuffet métamorphose du paysage à la Fondation Beyeler à Bâle. Nous évoquerons aussi plus rapidement Visage de l'effroi, violence et fantastique de David à Delacroix au Musée de la vie romantique à Paris et X-Ville, Jordi Colomer à la galerie Michel Rhin. Vers 21h20, Antoine Guillaume nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de La Dispute ce soir. Des invitations pour le film La Terre et l'Ombre de César Acevedo qui est sorti aujourd'hui en salle. Enfin, nous avons rendez-vous avec le cinéaste et comédien Bouli Lanners qui est toute cette semaine l'invité de La Dispute. Et nous ouvrons cette dispute en allant au Grand Palais pour y découvrir, ça dure encore 15 jours, l'exposition Les premiers albums de Lucien Clergue. Comme son titre l'indique, l'exposition est conçue à partir de 7 albums de planches contact oubliés, puis retrouvés, nous dit-on, dans l'atelier de Lucien Clergue après sa disparition. D'Arles au Nu, en passant par Ruines, Cimetières, Saltimbanque, Charogne, Gitans, Langage des Sables ou Taureau. On croisera aussi Picasso, pas mal, et Manitas de Plata, pour mon plus grand bonheur. Le commissariat et la direction artistique de l'exposition sont signés François Hébel et Christian Lacroix. J'adore Manitas de Plata, j'ai pas envie de couper cet extrait. Je l'ai vu souvent jouer Manitas de Plata. Il est très présent, mais c'est vrai. Mais j'ai grandi à Montpellier, Manitas de Plata, on le voyait souvent. Et puis s'installer comme ça sur une terrasse et puis jouer, tout le monde en profitait. Comme on le voit d'ailleurs, hein, jouer aussi bien devant Brigitte Bardot que devant Pablo Picasso. Il a eu toutes sortes de publics. Bon, il est présent sur les photos qu'on voit au Grand Palais. Pense à un autre disparu, c'est Michel Tournier, avec qui Lucien Clergue a fondé les rencontres photos d'Arles. Mais je m'éloigne, revenons à l'exposition du Grand Palais. Corinne Rondeau, sans votre guitare.
Ça fait longtemps que je suis au placard. Écoutez, moi, ça n'a pas très bien commencé. Bon. Alors, on est toujours content de découvrir en fait, des albums de photos qu'on a retrouvés. Ah, voilà, qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu, etc., etc. Bon, voilà, alors des petits formats, ces albums photos. Et alors, ça commence sur des nus de femmes, et bon, moi, je peux pas. Voilà, je peux pas parce que c'est des nus de femmes. Enfin, c'est pas des nus de femmes, c'est des nus de seins et de fesses. Il n'y a pas de tête, ou alors elles ont la tête tournée.
Et les sexes aussi.
Oui, aussi, c'est vrai. Le problème, c'est qu'un corps de femme sans tête, pour moi, ça ne veut rien dire. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment l'entrée de l'exposition, c'est une manière de photographier l'objet, quoi. Et c'est vrai que la suite, c'est quand même une exposition. Enfin, c'est aussi une série sur les charognes, c'est-à-dire des objets morts, des vanités, enfin, cette espèce de...
Des animaux morts.
Des animaux, qu'est-ce que j'ai
dit ? Vous avez dit objets, mais...
Des... Oui, ben voilà, mais...
Ouais,
pas,
non, mais...
Moi, je dois dire que...
Ça
en dit long, peut-être, oui. J'ai pas du tout accroché à l'exposition. Je trouve que c'est une photographie amateur. Je trouve que Clark a eu une chance folle. C'est-à-dire de faire une photographie avec des saltimbanques qui a permis, en fait, la rencontre avec Picasso. Mmh. Il a fait les photos avec Picasso. Donc, finalement, quelque chose se passe avec ce type de raison, on va dire. Mmh. Picasso le renvoie à Cocteau. Il va taper à la porte de Cocteau. Bon, c'est vrai qu'il fait des photographies sur le testament d'Orphée. Que par ailleurs, quand il monte à Paris pour évidemment rentrer dans le milieu, Cocteau lui dit « Écoute, rentre dans ta province, c'est là que tu seras le mieux ». Je crois que la largesse de Picasso et de Cocteau l'ont renvoyé là où il devait être. Et sans doute, c'est grâce à ça qu'il a été l'initiateur de ces journées d'Arles. Et qu'il a été celui qu'on connaît. Bon, par ailleurs, il a fait quand même, c'est vrai, ces photos qui sont pour moi vraiment des photos de nus d'amateurs, mais qui à l'époque avaient une étrangeté et qui lui a permis finalement une découverte, d'être découvert. C'est vrai qu'ensuite, il y a ces photos abstraites, il y a tout un mur de plus de 200 photos, les contrastes, hein, qui sont voilà, des paysages, gros plans, il n'y a pas un paysage romantique, c'est toujours une manière de cadrer, de serrer, de récupérer, d'avoir ça à lui, quoi, d'une certaine manière. Et moi, j'aime pas du tout cette vision qu'il a. La manière dont il use la caméra me paraît... très instrumentalisé, voilà. Il instrumentalise tout ce qu'il fait. Là où ça lui échappe un peu, c'est effectivement avec les gitans. Et ça, ce sont de très très belles photos, je trouve. Parce que je crois qu'il devait avoir un rapport très personnel à ce que c'était ce nomadisme, puisqu'effectivement l'exposition commence en fait par des vieilles photos de la destruction pendant la guerre d'Arles. Il dit qu'il naît à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il va prendre une photographie, il va commencer à photographier les ruines. Bon. On voit bien qu'il y a ce rapport dont on nous parle dans l'exposition, le rapport à l'érotisme, à la mort. Enfin, je veux dire, c'est le dernier des Mohicans sur ce rapport dualiste du début du XXe siècle, on va dire. Donc moi, j'ai trouvé ça d'une grande faiblesse. Et puis, par ailleurs, extrêmement insupportable, notamment sur ces photographies de femmes. D'ailleurs, quand il y a une photographie avec une femme, elle a un œil au beurre noir. Donc là, il y a quelque chose chez lui d'une misogynie. Et je pense d'une mégalomanie insupportable. D'ailleurs, tout est fait à sa gloire. On oublie quand même que Picasso ne voulait plus le faire rentrer chez lui à la fin de sa vie parce qu'il le trouvait extrêmement pesant. Donc, il a bien fait, sans doute, de faire ces journées d'Arles qui durent. Il a eu la chance, quand tous ces gens-là, Dali, Cocteau, Picasso sont morts, de dire « je suis le dernier des... voilà, je suis la mémoire de tous ces gens-là ». On s'est tourné vers lui. C'est un causeur, on le sait, c'est un hableur. C'est un type bon, qui a su ou taper.
On le voit
dans
les vidéos aussi, présentes dans l'expo.
Ouais, et fracasser des portes pour, justement, avoir ce qu'il voulait. Mais... je trouve que sa photo le reflète aussi par ailleurs. Cette manière de cadrer, cette manière de couper les têtes systématiquement des femmes, ou le photographier de dos, ou la tête tournée, je veux dire, il veut pas faire vivre ses femmes avec leur tête. Je veux dire, le corps d'une femme, c'est aussi son visage. Hein. Je veux dire, il y a des femmes qui vous disent non avec leur corps, qui vous disent oui avec leur visage ou inversement. Et donc, il veut pas donner une... Enfin, pour moi, voilà, ça, je veux dire, dès le début, j'étais à l'arrêt.
Ouais, moi, je m'étais pas posé cette question-là. Peut-être que Frédéric Bonnet a la réponse. Moi, je pensais que c'était une histoire de je sais pas quoi, de soucis, de... confidentialité, de modèles qui voulaient pas être connus, je m'étais pas posé cette question sous cette forme-là, mais bon, voilà, j'écoute évidemment, toujours avec passion, Corinne Rondeau, Frédéric Bonnet, sur cette exposition de Lucien Clergue.
Bah, que dire, c'est une exposition que je trouve pas si mal, elle tient dans la manière dont elle est organisée, par contre, en effet, en même temps, elle révèle les disparités abyssales dans la qualité du travail de Clergue et dans l'intérêt qu'on peut lui porter. Ça, c'est le risque de la rétrospective. Hein. D'un coup, on éclaire, on ouvre le champ, on ouvre les vannes, et si on voit un petit peu tout ou des échantillons d'un peu tout, on voit si tout tient, si rien ne tient, ou ce qui tient et ce qui tient pas. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Finalement, ces albums qui sont mis en avant sont des prétextes, puisqu'ils sont prétextes à ouvrir un parcours qui, grosso modo, va tenter de couvrir la carrière de Clergue. Et effectivement, moi ce que j'en retiens, c'est l'excessive disparité. Et je serais assez tenté de rejoindre Corinne sur beaucoup de ce qu'elle a dit. Il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas intéressantes. Et les nus, alors là, j'abonde complètement. Ça, c'est véritablement grotesque. Ça fait même pas... De loin, ça me faisait penser à quelques photos de Bill Brandt. Mais bon, quand Bill Brandt a commencé à faire ses photos dans les années 50, donc ça faisait déjà une décennie qui photographiait des corps, voire même sans tête sur les plages, mais il y avait quand même une autre profondeur dans l'image. Parce que chez Bill Brandt, il y a quand même une sacrée science du paysage environnant et de la profondeur que là, on n'a même pas chez Clergue. Et ces photos sont effectivement absolument grotesques. Moi, ce que je retiens de positif dans le travail de Clergue, et ce qui m'a intéressé, c'est l'aspect vernaculaire du travail, et c'est quand il s'en tient à une culture vernaculaire qu'il a véritablement quelque chose à dire, et quand il a véritablement quelque chose à dire, et ben ça se voit dans la photographie. Et quand il a quelque chose à dire, c'est effectivement, là aussi je vous rejoins Corinne, sur les photos de gitans, où j'ai trouvé cette section-là de l'exposition absolument admirable, parce que je sais pas si c'est la première fois, je suis pas historien de la photographie, j'en sais rien, mais en tout cas je crois que c'est une des premières fois qu'on a eu des représentations photographique de gitans où on n'a pas les mendiants, on n'a pas les voleurs de poules, on n'a pas les délégitimés de la société, on a des gens qui sont fiers, qui font la fête, qui sont heureux, qui s'amusent. Et ça, je trouve que c'est un regard particulièrement rafraîchissant sur les gitans. Ce qui m'a intéressé aussi, et là encore on reste dans cet aspect de culture vernaculaire, c'est tout ce qui a trait à la culture camarguaise, les bondieuseries, les croix dans les cimetières, ce genre de choses, et aussi le travail sur la tauromachie. Et notamment, il y a un film qui s'intitule Le drame du taureau, un film de 1965, que j'ai trouvé assez intéressant parce que finalement, on a l'impression qu'il cherche à héroïser ce qui ne l'est pas, de même que quelque part, il héroïse les gitans dans ses photographies, alors que les gitans sont quand même des anti-héros. Quelque part, il héroïse le taureau au lieu théoriser le torero. Et il a dans les photos qui sont faites aussi pendant les corridas un point de vue qui est assez intéressant, souvent au ras du sol, c'est-à-dire qu'il se met pratiquement au niveau de l'animal, et encore une fois pas au niveau du torero qui domine, mais au niveau de l'animal. Il y a beaucoup de clichés en contre-plongée, beaucoup de clichés réalisés au plus près de l'animal, et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Après, concernant cette grande série des contrastes qui occupe tout un mur, bon, on peut en garder quelques-unes, mais encore une fois, on a l'impression que le discours qui est accolé à ça, relatif à l'abstraction, y a des tas de photographes qui ont traité de l'abstraction en photographie d'une manière beaucoup plus acérée.
Et des décennies avant aussi.
Voilà.
Mais c'est vrai que, alors, c'est déjà quand même dire que cet espace d'exposition au Grand Palais, il est quand même problématique. Mais il me semble qu'il rétrécit à chaque fois, c'est quand même vraiment minuscule. Alors, non pas que. Peut-être qu'il a. Il aurait peut-être fallu une plus grande place. C'était frappant pour Helmut Newton. Là, j'ai l'impression que c'est encore plus petit dans l'espace. Malgré tout, du coup, ça fait ce mur, comme vous le disiez, de tentative, mais avec un accrochage extrêmement serré, vraiment à touche-touche, sur une très longue distance, ce qui fait que c'est un peu compliqué de discerner le bon grain de l'ivraie. Mais voilà, l'idée des albums, c'est de voir quelqu'un, et des premiers albums, de voir quelqu'un faire ses gammes. C'est pour ça que les nus, ils sont effectivement ce qu'ils sont, c'est-à-dire des essais. Bon, est-ce qu'il y a un intérêt à montrer ces essais? Oui, si après ça débouche sur quelque chose d'autre. Là, je trouve que ça débouche sur pas grand-chose, si ce n'est, moi j'ai beaucoup aimé les saltimbanques aussi, parce que il y a des visages comme ça et des regards qui sont très impressionnants de ces saltimbanques. Les gitans, je vous ai déjà dit ma passion pour les gitans, et je suis évidemment d'accord avec ce que dit Frédéric Bonnet, même si je ne suis pas non plus historien de la photographie, il y a peut-être eu d'autres séries photographiques de cette nature, mais en tout cas ça fait plaisir de les voir. Moi j'étais quand même très très gêné par cette scénographie que j'ai trouvée d'une laideur assez insoutenable, cette moquette en imitation de dalles dépareillées. Enfin, moi ça m'a vraiment heurté le regard, tout comme ces grands aplats de couleurs rouge, noir, jaune. Enfin, il y a un moment donné où même si c'est Christian Lacroix, je pense qu'il signe cette scénographie, puisque c'est François Eben qui, j'imaginais, le commissaire, et non pas l'inverse. C'est quand même assez, assez pénible de voir une exposition parfois dans des contextes qui sont très chargés. Moi, ça m'a quand même profondément dérangé. Et du coup, même les photos de gitans, ben, on les voit pas très bien, parce que celles qui sont en haut, il y en a une très très belle avec un, j'ai l'impression qu'il était mort, comme ça, la bouche ouverte, la tête en arrière. Ben, les effets de spot et de lumière dirigée font qu'on la voit pas bien et que on voit beaucoup mieux la série dans la publication qui accompagne cette exposition, qu'elle renvoie aussi nos auditeurs. Corinne Rondeau.
Oui, non, je suis assez d'accord avec vous. Moi, j'ai pas aimé non plus le dispositif de l'arène pour voir le film derrière lequel il y a un autre film. C'est compliqué parce que l'exposition est très visitée quand même, hein, même si on n'aime pas. Je veux dire, il fait ce qu'il faut, quoi, je crois. Mais non, c'est vrai qu'il y a une espèce de contrainte à la circulation. Ce grand mur, bon, il est sans doute utile pour voir qu'il y a une profusion. Enfin, il y a chez lui une espèce de forme un peu obsessionnelle de faire de la photographie aussi. Ouais,
mais c'est là qu'on avait mis touche-touche aussi les Mapplethorpe d'une façon complètement aberrante.
C'était pas de cet ordre-là, mais c'est vrai que c'était assez
serré. Loin,
bon, c'est
loin.
Cet espace qui respire peu, effectivement, il faut arriver à... Il n'y a pas eu encore de... On n'a encore pas trouvé la négociation, et cet espace qui, à mon avis, est un grand rectangle, mais il est assez compliqué.
Ouais. Ouais.
Mais c'est vrai que par contre le film, en plus le film de 65, là, le drame du taureau, qui est passé en numérique, est quand même il est très beau effectivement dans les cadrages et dans les prises de vue. Mais vraiment la série des Gitans est absolument formidable parce que je trouve qu'elle est d'une très grande humanité. C'est là où on trouve la seule humanité de la photographie chez Clergue. Il y a une photographie notamment d'une femme qui est sans doute âgée. Et qui a la tête dans les mains, semble pleurer ou peut-être se reposter, on ne sait pas trop. Et derrière, il y a une forme géométrique. Je veux dire, c'est inattendu. Et en même temps, la personne est là, quoi, même si elle ne donne pas quelque chose de son expression, de son visage ou quoi que ce soit. Là, pour le coup, même sans visage, il y a une humanité que je ne trouve pas, par exemple, dans les nus. Pas du tout. Et il y a une photo qui fait d'ailleurs l'affiche de ce profil de gitan qui porte en fait une c'est pendant les célébrations des Saintes Marie de la Mer, quoi. Et qui est absolument formidable parce que en fait il y a quelque chose de la chair, quelque chose qui est vivant, quelque chose du soleil même sur cette photo en noir et blanc. Alors que il y a des charognes ailleurs, alors que il y a une tristesse des saltimbanques dans les ruines.
Oui.
D'ailleurs, ils sont
ont des visages graves.
C'est d'une mélancolie mais abyssale. Hein. Donc bon, comme ils sont pris entre les charognes et les nus, sous les saltimbanques, ils m'ont mis entre deux, on va dire. Mais en plus, il y a quelque chose d'un rapport au miroir qui se joue, puisque il a joué du violon, Clergue. Et il photographie beaucoup un jeune garçon qui a une chemise à jabot, avec une petite culotte noire, comme ça on voit ses cuisses, et il tient ce violon, mais il n'en joue pas. Enfin, il y a quelque chose d'une tristesse qui se joue à l'intérieur de ça. Je crois que peut-être que là où il était le plus lié, c'était à cette espèce de monde et de société qui n'a pas de racines et que ce type en a trop cherché, sans doute par ambition démesurée. Bon, bah, écoutez, tant mieux, il a une exposition au Grand Palais, grand bien lui fasse. Hein. Et puis il a des amoureux, je n'en fais pas partie, mais c'est comme la vie, quoi.
Dernier mot, Frédéric Bonnet.
Oui, peut-être deux mots sur la publication, parce que vous mentionnez le catalogue. On parlait, il n'y a pas si longtemps que ça, des catalogues qui, de plus en plus, ne sont que des albums d'images. Mmh. Alors là, celui-là s'en est un, et d'une manière absolument scandaleuse. Mmh. Les rares bouts de texte, parce que je ne vais pas oser dire les textes inclus dans le catalogue, ce sont les textes de mur. Il n'y a pas une ligne de plus. Donc les textes de mur, pardonnez-moi, on ne va pas très loin. Et il n'y a pas un texte d'un quelconque auteur, y compris de François Eben lui-même, tentant de dresser un début de micro-analyse de ce qu'est le travail de Lucien Clergue. Alors peut-être qu'effectivement, il n'y a rien à en dire, mais s'il y a quelque chose à en dire et que le commissaire lui-même n'est pas capable d'écrire ne serait-ce que 4 pages d'explication et de début d'analyse du travail qu'il est en train de mettre en espace dans une exposition, c'est un scandale. Et à 35 euros le bouquin, c'est vraiment se moquer, mais largement du monde.
Bon, je ne vais pas reciter le catalogue, donc je vais dire que l'exposition Lucien Clergue, les premiers albums, se déroule au Grand Palais jusqu'au 15 février.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Avant de parler de Jean Dubuffet à la Fondation Beyeler, nous retrouverons l'invité de la dispute, le comédien et cinéaste Bouly Lanners. Nous évoquerons aussi les expositions ex-vide de Jordi Colomer et Visage de l'effroi, violence et fantastique de David à Delacroix, alors souvent violente, parfois fantastique. La revue de presse culturelle quotidienne de la dispute avec Antoine Guillot. Bonsoir cher Antoine.
Bonsoir Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. And the winner is Olafur Eliasson, s'enflamme Valérie Dupontchel dans le Figaro. Malgré les violentes polémiques qui ont entouré la présence de Sir Anish Kapoor dans les jardins royaux l'an dernier, le château de Versailles n'a pas renoncé à l'art contemporain. Question de principe républicain, puisque ce merveilleux palais des rois de France est aujourd'hui une icône de la nation. Mais il ne s'agissait pas de raviver la colère des uns, ni d'attiser la riposte des autres. Bref, de recréer un front dont l'art d'hier ou d'aujourd'hui serait le glaive. Comment faire intervenir un artiste avec une légèreté bienvenue, une immatérialité qui apaise les esprits? Olafur Eliasson, artiste de l'espace et des phénomènes naturels, horizon, cascade, brume, éclipse, glacier et autres ruisseaux, devrait être le bon apôtre. La polémique autour d'Anish Kapoor ne l'a pas dissuadé de venir à Versailles, pas plus que la perspective d'être prise en otage par la campagne présidentielle de 2017. Les artistes et la culture donne une forme à la société, estime-t-il. Ils n'ont pas une voix populiste, ils ne se servent pas de la peur ou de la paranoïa. Ils ont toujours été un stimulant à toutes les époques pour répondre aux défis ou pour apaiser le stress. Versailles peut être vu comme un monument destiné à impressionner le peuple ou comme une machine à illusions. C'est cet aspect qui m'intéresse. La question la plus difficile est de trouver quelque chose de juste à y faire. J'ai les moyens techniques et humains adéquats. Je me donne tout le temps nécessaire pour aboutir. Et puis dans le pire des cas, si jamais une éminence aux yeux fragiles passe par là, on pourra toujours mettre ses œuvres en boîte. Pour ne pas froisser l'œil d'Hassan Rouhani, en visite à Rome les 25 et 26 janvier, l'Italie a en effet décidé de cacher les statues de Vénus qui ornent le musée du Capitole, rapporte Michel Guérin dans sa chronique culturelle du Monde. Outre un musée sans nu, le président iranien a eu droit à un repas sans vin, accommodement raisonnable, dira-t-on, au même titre que proposer un menu sans porc aux écoliers musulmans, concession classique et subtilité du protocole par des États qui cherchent à vendre des avions sans être trop regardants sur le client. Mais nombre de voix en Italie, y compris celle du ministre de la Culture, ont dénoncé une capitulation de nos valeurs culturelles, d'autant que c'est l'Iran qui a demandé que les sculptures soient cachées. Le journal La Repubblica résume l'affaire. Fallait-il, pour ne pas offenser le président iranien, nous offenser nous-mêmes? Cette affaire italienne ternit un peu plus le principe d'universalité des œuvres, celle qu'incarne Vénus, amour, beauté. Autrement dit, une œuvre appartient moins au pays qui la conserve qu'à l'humanité qui doit la protéger et la montrer. L'UNESCO en a fait un label. L'autre principe mis à mal est celui de réciprocité. Matteo Renzi voile ses statues, mais s'il se rend à Téhéran, il devra demander à ses conseillères de porter un voile léger. Il ne pourra pas imposer que ses interlocutrices iraniennes n'en portent pas et n'aura pas de vin à table, affirme François Nicoulot, ancien ambassadeur de France à Téhéran. L'offense faite à Vénus traduit surtout le fossé qui ne cesse de s'approfondir entre Nord et Sud sur les notions de parité et de diversité culturelle, juge le chroniqueur du Monde. Encore heureux que le président iranien ne soit pas venu à Paris le 16 janvier et qu'il ne lui ait pas pris l'envie de visiter ce jour-là le musée d'Orsay, car samedi 16 janvier, raconte Carole Boinet sur lesarocs.com, alors que de petits malins se dessinaient des éclairs sur les joues en prévision de la parade organisée par Arcade Fire en hommage à Bowie dans les rues de la Nouvelle-Orléans, une jeune femme se dénudait au musée d'Orsay à Paris, allongée en tenue d'Ève au pied du tableau L'Olympia de Manet. Déborah de Robertis, une luxembourgeoise de 31 ans, était munie d'une caméra portative pour filmer les réactions du public venu découvrir l'exposition Splendeur et misère, image de la prostitution 1850-1910 qui prenait fin le lendemain. Ayant très peu goûté la performance, l'établissement s'est empressé d'évacuer la salle et de demander à l'artiste de bien vouloir se rhabiller. Elle a refusé et a demandé à parler avec un responsable. Un représentant de la direction est donc venu s'entretenir avec elle, assure aux Inrocs la porte-parole du musée, mais au vu de son refus de se rhabiller, nous avons appelé la police. Le musée a porté plainte et Déborah de Robertis s'est retrouvée en garde à vue avant de passer la nuit au dépôt du palais de justice. Déférée devant le délégué du procureur le lundi au matin, elle a écopé d'un rappel à la loi, mais ne sera pas poursuivie. La jeune femme n'en est pas à son premier coup d'éclat. En 2014, vêtue d'une robe dorée, elle exposait son sexe sous le tableau L'origine du monde de Courbet dans le même musée. La plainte de la direction était alors restée sans suite. Déborah de Robertis avait alors insisté sur la réflexion artistique à l'œuvre derrière l'exposition de son propre corps nu, expliquant avoir notamment cherché à questionner les rapports masculins-féminins et dès lors les projections portées sur le sexe féminin. En explosant le cadre et en redonnant vie à l'origine du monde, je donne au modèle un statut d'artiste, expliquait-elle. À travers ce renversement, je questionne qui est le dominant, qui est le dominé, qui est le maître et qui est l'élève, qui est la copie, qui est l'original, qui est l'artiste, qui est le modèle, qui est l'objet, qui est le spectateur, qui est le regardant, qui est le regardé. Eh bien, le regardé, ce n'est pas Blanche-Neige, en tout cas pas au Qatar. L'Émirat, a-t-on lu dans l'Humanité, vient d'en interdire l'adaptation illustrée par Walt Disney en 1937. Phrases et illustrations indécentes, insinuations sexuelles, cacher ce nain, et tant pis pour les générations perverties bien avant celle-là.
Kiki, hein, c'est ça la question. Kiki, trop, beaucoup trop de questions. Mais peut-être que Déborah de Robertis pourrait postuler à la direction du musée d'Orsay, hein, puisqu'il y a bientôt une place à prendre, moins que Guy Cocheval rempile. Je ne sais pas s'il peut, ou s'il a atteint une limite d'âge, mais enfin, c'est un poste bientôt à pourvoir. Le Grand Palais, c'est fait, on en a parlé. Vous êtes content, hein, pour Olafur Eliasson?
Frédéric oui, Bonnet. Non, je suis ni content ni mécontent.
Oh, si, vous avez fait, vous avez manifesté votre joie pendant la revue de presse.
Oui, non, ce qui est un peu agaçant avec le choix des artistes à Versailles, c'est qui est pas foncièrement mauvais d'ailleurs. Hein, j'avais dit du bien de certaines choses d'Anish Kapoor, mais c'est que je comprends bien qu'on va pas aller exposer un tout petit jeune qui sort des Beaux-Arts. Mais à Versailles, c'est quand même de l'enfonçage de portes ouvertes en permanence. Il n'y a jamais aucune surprise. Donc là, je me dis que après Eliasson, ça sera Ai Weiwei, sans doute.
Ah, on parlait pas de malheur.
On est en plein dedans.
Non, mais j'espère qu'il est totalement disqualifié, là.
Ah. Oui, mais je pense que ça nous pend au nez, bon. Mon cher Arnaud.
Non.
Bah si.
Je peux pas y croire. Enfin bon, Corinne Pando.
Je démissionne.
Si c'est Ai Weiwei au château de Versailles.
Ah, non, c'est pas possible.
Il est porteur de tellement de valeurs humanistes.
Bien sûr, oui. Sur les bords de plage. Surtout.
Exactement. Notamment, oui. Ouais. Bon, on en reparlera. On reparlera avec Yasmine aussi, qu'il défend de moins en moins, faut dire. Hein. Au fil des années, on s'est suffisamment disputé autour d'Ai Weiwei. Quant au statut du Capitole recouverte, bon, en même temps, à Paris, on reçoit le président cubain après le président iranien. Tout va bien. Frédéric Bonnet.
Tout va bien. Non, tout va pas bien. Effectivement, il y a un fossé de plus en plus abyssal qui est en train de se creuser. Et quand le ministre italien parle de capitulation des valeurs culturelles, je crois qu'il a entièrement raison. Et c'est des questions qui, à mon avis, il ne faut pas prendre à la légère.
Non.
Et qu'on a trop tendance à prendre à la légère et à survoler. Ça fait une petite blague là. Bon, ben voilà, les types, ils ont mis quelques boîtes autour des statues du Capitole. Le mec, le président iranien, il est reparti. Ça y est, c'est fait, c'est passé. Mais non, c'est pas passé. Parce que on l'a laissé passer cette fois-là. Ça veut dire qu'il y aura d'autres revendications de cet ordre-là. Et moi, ça me choque.
Ça
c'est
veut
un
dire
problème.
Qu'on peut...
C'est véritablement problématique.
Ça veut dire qu'ailleurs, on peut détruire des œuvres qui sont pas de notre goût.
Exactement.
Hein, Corinne Rondeau.
Qui est le dominé? Qui est le dominant?
Je t'ai reconnu, Déborah de Robertis. Non, c'est pas vous, Corinne Rondeau. Ce n'était pas un alias. Bon, si on parlait d'effroi, de violence, de fantastique.
Oui, je regrette qu'on n'ait pas fait ça en dispute.
Il fallait l'inscrire. On l'aurait fait février au milieu de la vie romantique.
Ouais. Bah, en tout cas, le sous-titre Violence et fantastique ne vole pas son titre. Ça commence avec un tableau de Marat d'après David, vous savez, hein, le Marat qu'on a au Louvre, de François Gérard. Et finalement, cette exposition, même si on peut reprocher ces salles qui sont un peu exiguës, trop sombres, etc. Bon,
c'est le charme du musée de la vie romantique.
Oui, mais ces salles temporaires sont difficiles. Ouais, je crois que c'est difficile pour accrocher, mais je pense que c'est aussi quand même une exposition où vous avez l'odeur de la guillotine d'une salle à l'autre. Et que pour le coup, là, on est vraiment dans des effets de fascination qui sont à la fois d'attirance et de rejet. Et le choix de certaines œuvres sont absolument sidérantes. Je dois dire qu'elles sont... Quand même, l'exposition est très, très fréquentée, ce qui signifie que Par ailleurs, quand les gens ont dit attention, la violence et tout, peut-être que les gens viennent chercher aussi des représentations de la violence. Ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est en quoi la terreur de la Révolution française a chamboulé dans la période du romantisme aussi la représentation. Mmh. Parce que la première salle, c'est pas que Marat qui est une icône, on va dire, de cette période-là, mais vous avez des tableaux qui sont beaucoup un peu moins connus, on va dire. Et là, on voit dans c'est vraiment la désintégration spatiale et formelle que le romantisme d'ailleurs représente assez vivement, que ce soit la France ou l'Angleterre ou l'Allemagne. C'est vraiment la période où vous avez du Fuschli, du David, du Goya, vous avez absolument tout ce qui peut être représenté. Et se dire non, c'est pas la même période. S'il y a une espèce d'éclatement dans la représentation romantique qui est pas inintéressante à l'égard de notre propre culture, je crois qu'il faut y regarder de plus près. Et cette exposition, donc, elle propose en fait 4 salles dans lesquelles va se déployer cette violence, la manière dont on va à la fois s'intéresser aux faits divers de cette période-là, en même temps le retour à certains mythes qui sont aussi des supercheries, comme la vision d'Ossian. Vous savez, c'était ce barde écossais du 3e siècle qui a été complètement inventé par un auteur anglais, Macpherson. Et en fait, ça a nourri quoi ? Ça a nourri Wagner, Herder, Goethe, Schubert. Donc ça, c'est dans la dernière salle où vous avez un lot de là, où vous avez une ronde de sabbat illustrée pour les Odes et Ballades de Hugo, mais qui est sidérante de la part de Louis Boulanger. Je suis restée devant ce truc-là, mais à tomber par terre. Le catalogue est formidable. Et puis c'est surtout ce démembrement, cette dévitalisation, cette désintégration. Vous le voyez dans des représentations, par exemple, de corps de femmes miséreuses avec leurs enfants. Je ne sais pas s'ils sont morts, s'ils sont à l'agonie. Vous avez un Prométhée au tout début, le supplice de Prométhée de Charles Broca. Le corps est complètement dissocié entre la tête, la vision vraiment, et qui regarde ce corps en train d'être bouffé par un vautour. On a vraiment le passage de la guillotine, c'est-à-dire ce corps n'est pas du tout intègre, ce cou sort comme ça, en train de se regarder, c'est sidérant. Vous avez notamment une scène de Massacre des Innocents, mais en fait c'est une étude de Léon Cognier, fameux Léon Cognier, il y en a plusieurs dans l'exposition qui sont absolument admirables. Cette femme, c'est un tableau assez grand, elle vous regarde, elle met la main sur la bouche de son enfant pour ne pas qu'il pleure ou qu'il crie, et elle vous regarde. C'est la manière dont le regard du spectateur n'est pas celui qui regarde, c'est celui qui vient terrifier. Et c'est saisissant, je vous assure que dans cette petite salle, on n'a pas beaucoup de place, vous avez des frissons. Vous avez l'enfer de Dante, vous avez, en fait, la 3e salle. Si vous aimez Guernica, bon, alors vous allez aller au musée de la vie romantique. Il y a un bas-relief qui est assez conséquent en termes de format de Auguste Préau, Thury. Je vous jure, vous êtes par terre. Je veux dire, les rapports d'échelle sont absolument pas respectés d'une figure à l'autre. C'est d'une puissance de mouvement qui vous saisit. Ce bronze, c'est un bronze sombre, gris sombre. Ce bronze crie littéralement. Et d'ailleurs, Gautier en avait tiré une formule en disant c'est la bataille à son dernier degré d'expression et de furie. C'est absolument incroyable. Puis il y a la séquence de Fualdès qui a été le procureur impérial et qui a été égorgé dans la nuit du 19 au 20 mars 1817. Je crois, à Rodez. Donc il y a de la croix, des esquisses à l'antique, mais aussi de Géricault. Puis vous avez quelques études qu'on connaît bien, Arnaud, de Géricault à Montpellier. Puis il y en a quelques-unes, dont une main qui serait de Géricault, mais j'en doute. C'est une collection particulière. Je crois qu'elle ne peut pas être de 1823. Bon. Écoutez, courez voir cette exposition.
Ah ben oui, vous avez très envie. Hein.
Où vous avez des tableaux qui vous sèchent littéralement et qui posent aussi la question de en quoi on peut régénérer la représentation quand quelque chose de la société est venu tout détruire des mythes.
Visage de l'effroi, violence et fantastique de David Allen de la Croix, c'est au musée de la vie romantique à Paris, c'est jusqu'au 28 février et vous nous donnez diablement envie, Corinne Rondeau. Faut-il aller voir Jordi Colomer à la galerie Michel Rhin? Voilà, on a jusqu'au 27 février, un jour de moins. Frédéric Bonnet.
Mais oui, il faut aller voir Jordi Colomer. Moi, Jordi Colomer, c'est un artiste que j'aime beaucoup et là qui revient à la galerie Michel Rhin avec deux films, dont un qui est inclus dans une installation. Ça s'intitule X-Ville, et X-Ville, c'est une ville qui est en formation, c'est une ville qui est en construction, c'est une ville qui est en réorganisation, dans des décors en carton où les architectures sont dessinées assez grossièrement. Et ce que continue à faire Colomer, parce que c'est ce qu'il fait dans son travail depuis le début, c'est de continuer à questionner notre rapport à l'architecture et le rapport entre la vie et l'architecture. Et là, il le fait d'une manière un peu plus utopique, parce que il s'inspire de certains écrits de Yona Friedman, en particulier, de manière très explicite. Il se lance dans l'idée d'une utopie réalisable avec les performeurs qui sont là dans le film et qui effectuent des actions, qui souvent sont imprévues. Et il y a un autre film dans cette exposition que j'ai trouvé absolument remarquable. C'est le premier qu'on voit quand on rentre dans la galerie. Ça s'intitule Svartlamon Parade, et Colomer est allé à Trondheim, au nord de la Norvège, et il s'est intéressé à une ancienne tradition de parade complètement loufoque et délirante qui avait lieu dans l'espace public, dans cette ville de Trondheim, pendant tout le XXe siècle, et une tradition qui, sans que je sache pourquoi, lui peut-être le sait, en tout cas s'est arrêtée dans les années 80. Et il est allé consulter les archives de ces parades, il en a pris des extraits qui sont intégrés à son film, et surtout, il a convié des habitants de Trondheim à refaire des parades. Et donc, il a convié les habitants de Trondheim à reconquérir leur espace public avec cette tradition loufoque de la parade qui s'était perdue. Et le mélange de ces nouvelles parades et des images d'archives est absolument formidable. C'est un très très bon film.
À découvrir, oui. Corinne Rondeau, vous confirmez.
Oui, mais j'ai pas la même conclusion.
Bon, bah écoutez.
Mais ce film est formidable, mais justement pour la dimension de, il y a plus d'espace public, c'est ça que nous dit cette exposition, enfin ce film, enfin ouais. À mon sens.
Donc c'est pour ça qu'il faut le reconquérir.
Mais il faut le voir. En tout cas, non, le film est formidable. Celui-ci est formidable.
Galerie Michel Rhin, c'est jusqu'au 27 février, Xville, exposition de Jordi Colomer. Dans quelques minutes, on va s'intéresser à l'exposition de Jean Dubuffet à la Fondation Beyeler à Bâle. Avant cela, on va retrouver l'invité de la dispute cette semaine, c'est Bouly Lanners, dont on peut retrouver l'actualité sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute. Enchanté, comment allez-vous ? Très bien, merci. Bouly Lanners, dans votre biographie, on voit que vous êtes passé par les Beaux-Arts de Liège. Quand on dit passer, ça veut dire quoi?
Bah là, ça veut vraiment dire passer. Ouais, là, j'ai fait un tour et puis on m'a acheté. Mais la passion était là. J'ai toujours voulu devenir peintre depuis que j'ai 10 ans. J'étais fasciné par la peinture et par les paysagistes pré-impressionnistes, les Corot, et par les paysagistes anglais, Constable et toute cette école-là. À partir de Turner, voilà. Mmh. C'est quelque chose qui m'a fasciné, qui me fascine toujours aujourd'hui. Donc je suis passé par les Beaux-Arts, puis voilà, c'était l'âge où il était préférable de ne pas aller à l'école pour moi. Mais j'ai continué à peindre, donc j'ai peint pendant des années, j'ai exposé, et puis à un moment donné, le cinéma a pris le dessus, et c'est pas deux choses qu'on peut faire comme ça en dilettante, c'est deux choses qu'il faut faire pleinement. Donc pour le moment, c'est le cinéma, mais la peinture me manque, et je sais que j'y retournerai chez moi, tous mes châssis sont là, tout est prêt, je rachète même encore des huiles maintenant. Parfois, je me dis, j'y vais, et puis je sens que ça va prendre du temps. Donc, j'y retournerai à la peinture, mais quand ce sera fini avec le cinéma.
Donc, peut-être jamais. C'est un renoncement, quand même.
Oui, il y a une forme de renoncement, mais je prends tellement de plaisir, et c'est tellement plus complexe et complet pour moi de faire des films, que pour le moment, le plaisir, il est là. Parce qu'il y a l'aventure artistique, mais qui s'accompagne d'une aventure humaine, tandis que la peinture, c'est quelque chose de très solitaire. Même si dans toute l'élaboration d'un film, il y a l'écriture, pour moi, est un travail de solitaire aussi, mais il y a aussi l'aventure humaine du tournage, du montage, de la préparation. Et puis surtout, ça raconte quelque chose qui est propre à l'homme. Donc je peux raconter des histoires. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai toujours aimé raconter des histoires, parce que je mentais. Quand on ment, c'est qu'on aime raconter des histoires. Et dans la peinture, je n'ai pas cette dimension-là. Je n'ai que la peinture. Mais ce qui est bien aussi... Mais pour le moment, j'ai des choses à dire et le cinéma me permet de les exprimer. La peinture, ça sera plus tard. Ce sera plus tard de nouveau.
Alors, évidemment, on pense à d'autres exemples de cinéastes qui ont été ou qui étaient également peintres. Alors, des gens très différents. Je pense à Peter Greenaway ou à Maurice Pialat. Bon, voilà, pour donner deux exemples. Comment vous expliquez qu'il puisse y avoir cette passerelle, ce pont entre ces deux formes d'art? Est-ce que le cinéma est une façon de peindre?
Pour ma part, oui. C'est-à-dire que ce que je n'arrive plus à faire à travers la peinture, je le fais pour ce qui est vraiment du cadre et de l'esthétique du film et de la forme, du paysage que j'y intègre. Il y a quelque chose dans le cinéma qui est la continuation de la peinture. Il y a clairement des références à la peinture dans mes films. Dans ce film-ci, il y a vraiment une référence à ce qui était ma peinture, c'est-à-dire je faisais des grands paysages à l'huile avec une ligne d'horizon très basse, des ciels très pesants, très lourds, un peu dans l'héritage des expressionnistes flamands. Et on retrouve cette gamme de couleurs dans ce film-ci, avec une absence de vert, en restant dans les bleus outre-mer, les bruns. Et puis il y a des petites références à des peintures que j'aime. Vous allez voir, si vous voyez le film, vous allez voir, il y a une référence à l'Angélus de Millet. Il y a une référence à Philippe Rebaud fait Jésus dans mon film. Il y a un plan où il est vraiment couché avec un linceul. C'est vraiment un Christ du Gréco. Mais il y a une référence à Hopper dans le plan d'ouverture du film. Donc il y a aussi des petits plaisirs que je me fais comme ça.
J'ai évoqué lundi soir la très riche scène artistique du spectacle vivant en Belgique. En matière d'art plastique, elle est riche, vive aussi. Il y a beaucoup de très bons artistes. Qui sont les contemporains, alors Belgique et hors Belgique, qui vous intéressent, vous, Boulay Lemers?
Alors, il y a trois contemporains que je suis particulièrement. Il y a Damien Delepeler, qui est un plasticien bruxellois, qui fait un travail qui a été jeune prix de la peinture et prix de Rome il y a une trentaine d'années, et qui poursuit son travail sans cesse, et qui est très riche, voilà, qui est très éclectique, qui est aussi un autodidacte, et un travail très très particulier, qui est difficile de définir. Et puis alors, il y a Spike, qui est les deux prochains sont deux anciens graffeurs, en fait, qui faisaient partie d'un groupe qui s'appelle le JNC, un Posse, et donc ils sont passés du graphe à la peinture, avec Spike, qui fait des paysages très new-yorkais, mais à la bombe, mais assez réaliste. Donc c'est très très beau, graphiquement c'est très très beau, et lui il est en train d'exploser, là il expose à Bruxelles maintenant, puis il va exposer à Los Angeles. Et l'autre c'est Michael Nicolai, qui est aussi un ancien graffeur et qui fait des peintures beaucoup plus structurées, des peintures d'usines désaffectées, puisque Liège est un bassin industriel en déconstruction, et il peint ses usines mais d'une manière très structurée et avec des couleurs très sobres qui rappellent parfois presque Mondrian. Voilà.
Et est-ce que vous avez un goût pour des artistes qui sont plus dans le registre soit de l'installation, soit un registre plus politique, de critique? Je pense aussi à Wim Delvoye, dont on parle souvent ici. Est-ce que ce sont des univers ou des travaux qui vous intéressent?
Je sais que c'est très dans l'air du temps, mais j'ai beaucoup moins d'affinité avec l'art conceptuel, qui pour moi me touche moins. J'ai besoin d'avoir quelque chose dans la matière, dans la forme qui me touche plus, donc ça reste de l'ordre de la peinture. L'installation est quelque chose qui m'excite moins, voilà.
Et le classique, qui est le plus important à vos yeux, celui que vous pouvez aller retourner voir et voir encore?
Le Gréco, ça reste absolument magnifique. Quand on prend des petites parties, dont l'enterrement du comte d'Ormuz, il y a des petites parties, notamment la petite tapisserie qui est sur la selle du cheval du comte. Si on reprend uniquement ça, c'est une peinture expressionniste. Mais ça a trois siècles d'avance. Le Gréco, c'est insensé, le Gréco.
Nous poursuivons cette dispute consacrée le mercredi soir aux arts plastiques en vous proposant une fois de plus d'aller à Bâle à la Fondation Beyeler pour y découvrir l'exposition Jean Dubuffet, Métamorphose du paysage. Alors comme on aime beaucoup cette fondation, je me permettrai de la citer au palmarès des premières fois des communiqués de presse avec une invention que j'ai trouvée très savoureuse. Il s'agit donc, je cite, de la première rétrospective suisse du 21e siècle consacrée à Jean Dubuffet. Le commissaire en est Raphaël Bouvier.
Thank you.
On peut voir à la Fondation Beyeler plus d'une centaine d'œuvres du peintre et sculpteur Jean Dubuffet, toutes ces périodes, et puis une présentation, ce qui est, je crois, assez rare, de Coucou Bazar, œuvre totale, peinture, sculpture, théâtre, danse et musique. Ça vous fait déjà rire, Corinne Rondeau. J'ai pas eu la chance, une fois encore, d'aller à Bâle, donc j'attends de savoir pourquoi, et s'il faut y aller pour découvrir cette exposition. Frédéric Bonnet?
Ah, moi, je pense qu'il faut y aller parce que on a toujours, je crois, chacun d'entre nous, un Dubuffet en tête. Parce qu'il y a pas.
Parlez pour vous. Non, je plaisante, Frédéric.
Je crois que c'est le cas quand même de pas mal de gens. Et là, évidemment, l'exercice rétrospectif nous montre une étendue de Dubuffet de manière assez classique, hein, chronologiquement classique. Je dirais, mais qui pour le coup se tient très très bien et avec un parti pris d'essayer de relire le travail de Dubuffet à travers l'idée du paysage ça tient, c'est tout à fait convaincant, ça tient et surtout se promener dans les salles, ça permet de revoir que chez Dubuffet il y a des obsessions qui sont récurrentes époque, période après période, et qu'il y a constante une expérimentation de manière, enfin des volontés d'expérimentation afin d'entretenir une ambiguïté du médium et une confusion des éléments, notamment entre la figure et le paysage. Il y a beaucoup d'œuvres qui montrent des fusions des éléments, le corps se transforme en paysage, le paysage devient un peu un visage. Il y a une des œuvres les plus anciennes qui est exposée, qui est un tableau de 1943 qui s'intitule Le bocal à vache. C'est d'entrée un tableau étonnant, recouvert de verre. Il y a effectivement le bocal qui est dessiné, puis il y a une vache à l'intérieur. Et le dessin du bocal fait déjà penser à la sinuosité d'une silhouette corporelle. Donc d'emblée, on voit qu'il y a un mélange comme ça, qu'il y a une ambiguïté qui est latente. Après, ce qui est évidemment intéressant dans le parcours de cette exposition, c'est de voir aussi comment est-ce que Dubuffet a eu une espèce d'obsession pour un traitement en profondeur du paysage. Quand il est véritablement dans les tableaux entre guillemets paysagers, il y a toujours une ligne d'horizon qui est très très haute et donc il y a un empilement de couches. Il y a toujours quelque chose de très très géologique dans cette peinture, y compris et même surtout dans les peintures des années 50, où notamment une série qui s'intitule Paysage du mental, où le tableau devient presque plastique, et là encore on est dans une confusion complète entre débris corporels et paysages potentiels.
Je vais revenir vers vous, Frédéric, mais l'expressivité du visage de Corinne Rondeau à chacun de vos propos, évidemment, m'interroge.
Corinne, non, sur parce que justement, cette exposition c'est ça, du buffet. Le mot de profondeur est un mot problématique chez Dubuffet. Par contre, c'est vrai que l'exposition de Raphaël Bouvier, enfin, je vais revenir sur la profondeur, mais je trouve que l'exposition de Raphaël Bouvier a quand même elle est d'une grande intelligence, parce que, à partir de la formule de Dubuffet, tout est paysage, bon, évidemment, il est arrivé quand même avec une centaine d'heures à trouver une cohérence, c'est-à-dire à lisser les discontinuités. Donc là, pour le coup, bravo, parce que c'est pas une œuvre facile à exposer, c'est pas une œuvre qui est facile à voir, et qui a toujours un accrochage à Beyeler, dont souvent, en fait...
Oui, parce qu'il y a un fond Bouvier, déjà important de
ouais,
de
c'est de quand Buffet. Même assez formidable.
Parce que Beyeler a été le galeriste...
Oui, de 60 à 70, ça a été un contrat...
Il en a beaucoup, beaucoup, beaucoup vendu.
Oui, oui, oui. Et là, c'était, des droits exclusifs à Beyeler de 60 à 70. Donc c'est vrai que l'exposition, je crois qu'il faut aller la voir, parce que c'est toujours un accrochage assez somptueux, et puis il y a une simplicité d'accès. Tout fait paysage, les métamorphose du paysage, donc il s'en tire bien, parce que c'est pas une manière de rappeler le paysage au sens romantique, parce que c'est anti-romantique à souhait, Dubuffet, mais c'est de dire qu'est-ce qui change dans une vision Voilà. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, l'entrée, c'est quoi? C'est le bocal à vache dont parlait Frédéric, mais c'est aussi deux corps, les soldats, les gardes du corps, pardon, deux corps comme ça, un tableau qui a disparu pendant 40 ans et qui a ressurgi. Ce sont deux hommes. Effectivement, on a beaucoup de couleurs, cette couleur qui va réapparaître à la fin de sa vie, dans les années 60, fin 60, dans la période Lourloupe. Et donc, ces deux personnages, effectivement, ils ont des traits qui sont bruts, on va dire. Hein. Il y a quelque chose de synthétique. Il y a beaucoup de couleurs. Et ce paysage, je dirais, de campagne, à côté d'un paysage vigneux, et puis ensuite, une ville, parce que c'est la première salle, c'est ville, corps, pays, campagne. Et donc, on a là déjà la synthèse de ce qui va être les motifs de l'œuvre de Dubuffet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à quel point Dubuffet sera toujours l'homme qui va créer des sillons. C'est un faiseur de sillons. Et c'est pour ça que la question de la profondeur, on peut pas l'aborder sous le sens de la profondeur en histoire de l'art. C'est quelqu'un qui s'est posé la question du sol. C'est-à-dire en quoi le sol, ça nous fait tenir debout et comment il va verticaliser, va mettre à la verticale ce qui est à l'horizontale. Comment le sol va être dans la toile. Et elle va prendre la matière, c'est-à-dire qu'après la peinture, il va y avoir des gravats, du sable, et puis il va y avoir du papier. Et puis on voit très bien que dès les années 46, il va pas du tout peindre les cernes en noir des corps. Il va gratter la peinture dessous. Donc on voit bien que c'est l'homme des sillons. C'est l'homme qui va faire de la peinture, non pas un dessus-dessous, mais un dessous-dessus. Enfin, et donc ça m'intéresse parce que justement, cette question de l'horizon, c'est quelqu'un qui dit je vais vous mettre de l'horizon, mais au point de l'asphyxie. Et d'ailleurs, toute la série des tableaux dont on a beaucoup parlé autour de l'après-guerre, dans les années 50, ces tableaux qu'on a en tête, ils ont de gros reliefs, ils ont un aspect blanc et cru, et puis un horizon, on dirait, marron. Hein. Et donc, en fait, on a l'impression d'être dans un champ d'os. Donc, on a parlé de l'après-guerre, des camps, enfin, de la Shoah, etc. Dubuffet n'est pas un commentateur. D'ailleurs, il ne parle pas d'histoire de l'art, il ne parle pas de ses contemporains, il ne parle pas d'histoire, il fait. Donc, c'est tout, je dirais, toute la qualité du travail de Dubuffet, c'est sa solitude et la manière dont il traverse justement ce sol et pas cette profondeur. Parce qu'évidemment, toutes les questions de géologie peuvent revenir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il appelle textologie, matériologie. Il utilise aussi le terme de « Oh mon Dieu, vite une note que j'aurais perdue !» Eh bien, je l'ai perdue. Matériologie, texturologie et topologie. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui est sur le territoire et dans l'épaisseur des strates. Et donc, la question de la profondeur est un faux mot, même si c'est un mot qu'on peut employer, bien sûr, mais c'est un faux mot au sens de l'histoire de l'art.
Frédéric Bonnet, pour poursuivre.
Oui, il y a aussi une question qui est fondamentale, je crois, chez Dubuffet, qui est celle de la reconstruction mentale, de la reconstruction, de la destruction et de la reconstruction derrière. Il y a toujours un mouvement de balancier qui s'opère. Alors évidemment, là où ça saute aux yeux, c'est dans le travail des années 50 qui consiste à découper des toiles qui sont déjà peintes et puis après à recomposer un tableau en allant agréger des morceaux les uns sur les autres et là encore une fois à recomposer des paysages ou à recomposer on va dire une essence corporelle, ce qu'on aime, on n'ose même plus dire un corps, on est face à une chose. Et même quand on reste, il y a des tableaux qui sont particulièrement lisses. Il y a un tableau qui m'a fasciné, je sais plus, là moi aussi, au secours la note, je l'ai plus. je sais plus de quelle année il est. On ne sait pas ce qu'on regarde. Alors lui, il est tout lisse. Il n'est pas du tout dans des effets matiéristes. On a une espèce de volume. Globalement, on peut se dire que c'est peut-être un visage. L'indice, c'est qu'il y a deux espèces de points. Ça pourrait être les yeux. En même temps, ça peut être un champ. Ça peut être, je sais pas. On ne sait pas ce qu'on regarde. Et donc, on est complètement là encore dans la construction d'un motif, d'un motif possible, potentiel, mais qui procède complètement de l'évanescence et de la déconstruction. Même dans le Lourloupe et dans le Coucou Bazar et tout ça, on est véritablement dans un travail de couches, d'associations, de reconstruction. Chaque personnage de Coucou Bazar a un potentiel de transformation en lui-même. Ça n'est jamais une surface plane. C'est quelque chose qui semble pouvoir se rompre ou se transformer. Et ça, c'est assez fascinant.
Corinne Rondeau.
Oui, c'est tous les effets de matière. Il y en a un qui est absolument admirable, qui est fait avec du papier et de l'argent. je me rappelle plus comment il s'appelle, il vient du MoMA, celui-ci. C'est l'âme des sous-sols, voilà, je crois que c'est ça, qui est absolument d'une beauté, mais il pourrait être dans une autre exposition d'art contemporain. Je pense qu'on découvrirait après coup que c'est un Dubuffet, qui est assez sidérant. C'est vrai qu'il y a des le plaisir, c'est de voir toutes les matières qui apparaissent sur la surface. La salle des vanités ou des tables, par exemple, ou des paysages, enfin, on sait plus trop ce que c'est. On a l'impression que c'est un Pollock qui nage dans des nymphéas de Monet. Il appelait ça des pâtes battues, hein, comme du beurre. Il y a des tons jaunes comme ça, qui sont très, très, très beaux. Là encore, on ne sait pas ce que c'est. On arrive à percevoir des paysages, mais ça n'en est plus. Mais là encore, l'idée de la table, sur la table, il n'y a que des choses mortes. Et c'est ça qu'on mange. Et c'est cette manière dont il peut faire revenir quelque chose d'une sensualité aussi. Et même si cette sensualité, parfois, est un peu lourde à voir, je trouve. Mais c'est vrai que l'idée de la métamorphose du paysage n'est pas inintéressante et je trouve qu'elle est juste à l'égard de l'exposition, en tout cas de ce fil rouge, de ce leitmotiv et même peut-être de Dubuffet. Je ne suis pas spécialiste de Dubuffet. Mais c'est par exemple la salle des nus, des femmes. C'est intéressant parce que les seins, par exemple, c'est comme des yeux. Et le nombril, vous avez l'impression que c'est une bouche. Donc en fait, vous avez un visage dans un corps qui lui-même fait paysage. Et donc en fait, ce que vous voyez est aussi une manière de voir des signes, mais de l'espace et des limites. Et donc en fait, vous n'arrêtez pas d'avoir une manière de lire une chose par rapport à une autre, etc., etc. Donc ça, c'est très intéressant, c'est un parcours très excitant. Puis il y a la deuxième période, quand même, la dernière période, qui est la période asphyxiante culture. C'est-à-dire que là, il va passer à la couleur. Je ne pense pas que ce soit une fin, je crois que c'est une manière de réagir à une culture. Alors là, c'est à hurler de rire quand il fait ses tableaux. Est-ce qu'il est inscrit sur les tableau. J'en signe qu'une. J'ai Pignouf et compagnie. Bon, ça ne vous fait pas rire. Ministère des grasses pâtes. Ça, peut-être ça vous fait rire. Ou poireau au cul célibataire. Non
si,
eh bien, voilà. Eh bien, moi, ça s'appelle Commerce Prospère. C'est la ville, mais c'est aussi quelque chose de la culture. Et au lieu de voir ce sol, on a l'impression qu'on est dans des cloaques, même s'ils sont colorés.
Bon, eh ben voilà, beaucoup de raisons pour aller à Bâle, à la Fondation Beyeler. On a jusqu'au 8 mai pour se faire, pour découvrir Jean Dubuffet, Métamorphose du paysage.
France Culture.
La Dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et nous concluons avec le jeu de la dispute. Retour sur le jeu d'hier au soir pour commencer, Antoine Guillot.
Grâce auquel vous avez gagné des invitations pour la rétrospective Shaunaz Bartas du 5 février au 6 mars au Centre Pompidou à Paris. Je vous avais demandé quels films du réalisateur lituanien sont cités par Jean-Luc Godard dans ses histoires du cinéma. Il s'agit de Trois jours et de Corridor.
Ce soir, nous faisons gagner des places de cinéma pour aller voir La Terre et l'Ombre de César Acevedo qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Quelle est la question?
Dans quelle région de Colombie ce film a-t-il été tourné?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont envoyées à auditeurfranceculture@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Corinne Rondeau, Frédéric Bonnet, Antoine Guillot, d'y avoir pris part avec moi. Les informations sur cette émission sont disponibles sur notre magnifique site internet, franceculture.fr, à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou podcaster nos émissions, un site sur lequel vous pouvez aussi nous écrire. La dispute est possible grâce à Hugo Boursier, Sam Boutata, Daniel Fino, Antoine Guillot et Virginie Leduo. La prise de son était assurée ce soir par Manuel Couturier, la réalisation signée Daniel Fino. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la musique en compagnie de Marie Audroux et Emmanuel Dupuis. À notre affiche, Il Trovatore et de Verdi, dirigé par Daniele Caligari, mise en scène par Alex Ollet, c'est à l'Opéra Bastille à Paris. Et puis Lady Macbeth de Mainz, direction musicale Kazushi Ono, mise en scène de Dmitri Tcherniakov, c'est à l'Opéra de Lyon. Nous évoquerons aussi plus rapidement le CD des œuvres complètes pour piano seul de Maurice Ravel par Bertrand Chamaillou. Nous retrouverons Antoine Guillot pour une nouvelle revue de presse culturelle, les choix de Bully Lanners, le nouveau cadeau à gagner avec le jeu de la dispute. Tout ça, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.